Radio Royan et les amis du Vieux Saint-André vous proposent un feuilleton balade patrimoniale, les maisons fortes de Saint-Romain. Sous la conduite de Marie-Noël et François Capéran, l'association a invité pour ce début du mois d'avril 2013 des passionnés et autres curieux de patrimoine à réaliser un itinéraire empreint d'histoire autour et dans le village de Saint-Romain. Ce circuit numéro 5 est extrait du guide Bienvenue à Saint-André édité par l'association.
Allez, on y va.
Deuxième épisode. Après avoir rejoint une partie des amis du vieux Saint-André, depuis le lieu dit Les Cantes et ses premières maisons fortes à proximité, nous voilà partis vers le centre village où nous attendent Monsieur et Madame Belmont.
Allez, bonne journée.
Bonjour Monsieur Courbon, on aurait dû vous demander parce que vous sauriez plus dire des choses que nous.
Pardon, là ?
Ouais.
Pas bien, non.
Si. Mais c'est pas grave, une autre fois. Là, on est pris par le temps.
Vous auriez pu passer par les marronniers, là ?
Oui, et la statue, elle date de quand ?
Ils l'ont mise en 1926.
Voilà. C'est une mission ?
Oui.
D'accord.
Pour le châtelain, là.
Voilà.
Il était malade.
D'accord.
Si vous voulez faire le tour, là, par les marronniers, là.
Et là, on est attendu dans le village. Voilà, merci, au plaisir. Oui, il y a des cadences solaires. Mais c'est pas loin de Saint-Pierre-Chérène, tout autour de Saint-Pierre-Chérène, il y avait... Pascalis, voilà, un fabricant de cadences solaires. Et il y a eu énormément de cadences solaires dans toute la région, qui sont des Pascalis. À Saint-André, il y a 13 cadences solaires, signé Pascalis. Alors maintenant, il y en a qui ont été restaurés par M. Peignet, celui qui a restauré le château de Saint-André. Voilà.
Là où ils ont bien rénové, c'est la partie ferme, la deuxième partie.
Voilà.
La partie...
Ah oui, donc. Alors à Saint-Romain, il y a quand même, on a la preuve d'habitation dès l'époque préhistorique. En fait, il y avait un oppidum, qui en quelque sorte un refuge, qui était contre le rocher du calvaire actuel. Et sous ce rocher, et on a des traces qui sont maintenant ou au musée dauphinois ou oui essentiellement au musée dauphinois et qui ont été aussi au musée de Beauvoir. Il y a par exemple des éclats de taille, des burins, des grattoirs, des lames, nucléus en silex, un outil néolithique, marteleur en silex, quelques fragments de céramique aussi de l'âge de bronze et du fer, des périodes gallo-romaines et burgondes. En fait, surtout, toutes ces traces prouvent que ce lieu a été fréquenté continuellement depuis l'époque préhistorique. Alors, on doit toutes ces recherches à M. Filliol, qui était un notaire, c'est lui qui a créé le musée de Beauvoir en 1913 et qui était très ami avec Müller, le conservateur du musée dauphinois. Voilà, Claude Müller. Hippolyte. Claude, c'est plus récent. Voilà, c'est les descendants. Ce sont des neveux, je crois. Claude Müller est un neveu, je crois, dit Claude.
Petit-neveu,
oui. Oui, petit-neveu. Mais il y a deux Claude.
Oui.
Bon, par contre,
mais
moi...
Mais bon, dans un petit village, sans agricole comme ça aussi, il n'y a pas non plus des quantités.
Non, c'est sûr. Mais, disons, Saint-André a une époque, était beaucoup plus important que maintenant. Il a été jusqu'à 1000 habitants. Donc, c'était des lieux de maisons nobles aussi, beaucoup. Les nobles, les seigneurs avaient des terrains. On les appelait les forains d'ailleurs. Ceux qui n'habitaient pas sur place, mais qui avaient seulement des terres nobles. Et Saint-André, il y en a beaucoup. Saint-Romand a beaucoup de maisons fortes, dans ces maisons de nobles, parce que c'est un peu... À Saint-André, il n'y avait que les terrains nobles, en quelque sorte. Alors, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'entre dès l'époque romaine, entre l'église et le calvaire qu'on verra donc cet après-midi, il y avait des villas romaines. Donc, ce Saint-Romand a été habité pendant tout le temps. Voilà.
Vous faites partie de l'association des Amis du Vieux Saint-André ?
Non, moi je suis à Saint-Marcelin, je m'occupe du groupe Rempart. Je m'occupe de la même chose, enfin le patrimoine, etc.
D'accord. Et vous faites des collaborations ?
Ah oui, bon, c'est-à-dire à Saint-Marcelin, tous les deux mois, toutes les associations qui s'intéressent au patrimoine de la région, du canton, même au-delà, on se réunit à Saint-Marcelin sous l'égide de Micheline, là. Et on discute de nos problèmes, on dit moi je fais ci, moi je fais ça, et tout le monde se réunit, et puis on fait des petites réunions comme ça, on fait d'autres choses. Quoi.
D'accord.
Maintenant, le groupe Rempart, nous, on fait d'abord notre occupation la plus visible, c'est que pour les journées du patrimoine, j'organise une visite de la ville, pendant deux jours, deux visites, et au point de vue historique, on retrace actuellement tous les événements qui ont pu se produire pendant la guerre 1945 à Saint-Marcelin. Par exemple, je crois, Pétain décide d'arrêter les Juifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Marcelin? Pourquoi il n'y a pas eu de truc d'arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, parce que la gendarmerie était, etc. On remonte, voilà. Et puis, on récupère des témoignages de résistants de Saint-Marcelin qui me disent, moi, j'ai pris le Vercors, je suis revenu, j'ai traversé l'Isère à la nage, j'ai fait des... d'un autre, j'ai de l'arabe, etc.
D'accord.
J'ai eu l'arabe, il y a tout ça. Alors, on travaille ça année par année, et on publie ça dans le Trait d'Union, qui est le journal de la municipalité, quoi. Et quand on aura fini, on essaiera d'en faire un petit livret en complétant avec des biographies, des trucs comme ça, enfin, puis livré, j'ai l'impression que ça ne va pas être un livre, ça va être un bouquin, enfin, pour le moment, on n'est pas encore là.
Ah, vous aimez...
Comment
Lyon dit.
Vous aimez faire aussi ce genre de parcours aussi?
Ah oui, mais alors moi je m'intéresse à l'ancien, mais je m'intéresse aussi aux moins anciens, etc. Oui. Le patrimoine, c'est tout, hein, c'est depuis le... l'époque d'Amberdeux jusqu'à l'époque de Carrier, René, les résistances à Marseillais, etc.
Et
toute cette partie de la résistance, parce que moi je suis assez ancien, et je suis un des derniers Saint-Marcellinois qui a connu la guerre. Alors une fois que je serai mort, et des gars qui ont encore 5-6 ans plus que moi seront morts, plus personne ne connaîtra. Donc c'était presque un impératif moral de faire ce travail. Pour garder la mémoire.
Bonjour madame.
Qui vous sentez?
C'est elle qui bosse comme pas possible.
Bon, bah, nous troubler, non, avec grand plaisir.
Voilà.
Vous êtes les bienvenus, on se connaît.
Bonjour.
Bonjour. Mais écoutez, entrez.
Alors
voilà, la maison, c'est une maison de maître du 19e siècle. Elle a été construite en 1865. Elle est dans la famille depuis 5 générations maintenant.
Voilà. À l'origine, il y a eu des Arnauds.
Voilà, des Arnauds qui étaient originaires de Saint-André.
Voilà, c'est
justement.
Pour ça qu'on a
voilà.
On est très chauvin à Saint-André,
mais
donc
vous
on
avez
cherche
raison,
tout ce qui
vous
suit. Voilà. Il a été notaire à Saint-André.
Oui, et à Saint-Romand.
Il s'est installé,
également.
Voilà.
Et voilà. Et la maison qui est là lui servait d'étude au tout début. Parce que vous allez voir, il y a plusieurs bâtiments. Et notamment, il y avait une ferme à l'origine. Voilà, alors l'origine, vous voyez, c'était la ferme. Avec les tables en bas. Donc c'est ce qui existait au tout début.
La ferme date de quand? La ferme est ancienne.
Alors, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas.
Ah, parce elle est
très ancienne.
Elle est plus vieille que la
maison. Elle est plus vieille que la maison, oui, c'est sûr. Et même la maison-là est plus ancienne.
Oui, parce que là, bon, je me fais bien pour moi. 15e, 16e, hein, 17e, peut-être, je crois.
Oh, peut-être 17e.
17e, oui.
Je pense. Avec le sèche-noix là-bas.
Ah oui, ouais, c'est difficile à dater.
Grands... Écoutez, je n'ose pas vous montrer l'intérieur, c'est envahi d'affaires.
Ah oui, oui, oui. Vous êtes enfin, des salles voûtées, non?
Oui, enfin, je peux quand même vous montrer un peu le...
Je suis curieux.
Oui, mais alors, c'est tellement envahi.
Ah oui, oh là.
Oui, alors, d'ailleurs, là-bas, vous voyez un peu là.
C'était quoi, ça?
Ah, oui, ça, c'était l'étable.
Les plafonds.
Voilà, et on va restaurer petit à petit. Mais bon, il y a du travail.
À l'extérieur,
il y a du boulot.
Déjà, une maison qui est immense. Hein.
Elle est, au point de vue pièce, il n'y en a pas tant que ça, si vous voulez. Il y a 4 grandes pièces par niveau. Voilà, elles sont grandes.
Ah, oui.
Donc, c'est pas non plus démesuré. Et puis, comme elle est en hauteur aussi, ça donne un effet de grandeur supplémentaire.
Oui.
Nous on y est attachés. Hein. Puis on est attachés à notre village aussi.
Oui.
De
Saint-Romain.
Voilà.
Mais elle est belle, hein,
une belle gentille.
La façade, elle est bien proportionnée, chouette.
Elle est bien construite, elle est bien carrée. Enfin,
Et donc, là. C'est qu'à l'époque
1865, la maison.
Ouais.
Et alors, si vous voulez,
l'allée 19e.
L'allée que vous avez prise pour venir, c'est l'ancienne route de Pont-en-Briand-Saint-André. À l'époque, le chic, c'était de faire construire le long d'une route. Et d'ailleurs, de l'autre côté de la maison, il y a une terrasse où ma grand-mère me racontait que sa belle-mère voyait passer les calèches et ils s'arrêtaient pour discuter un petit peu ou éventuellement donner une boisson aux gens. C'était sympathique. Et après, ils ont échangé, comme ils avaient des terrains en bas, avec la mairie, la route. Voilà.
Un groupe intéressé par
Patrick,
en quelque sorte marcher autrement en racontant l'histoire des
lieux. Merci de nous accueillir.
Je vous en prie, c'est avec plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, vous voyez... Heureusement, s'occupe beaucoup de choses et c'est grâce à lui que nous avons pu rester là, parce que sinon, dès que mon mari avait un problème de démêla, qui était malheureusement assez sérieux depuis 12 ans, et c'est vrai que ça l'a handicapé beaucoup. Donc, nous sommes restés là avec plaisir, et mon fils après est venu nous rejoindre très gentiment.
On voit qu'il y est très attaché.
Ah,
et le lien avec la famille Arnaud, c'est une vente. Les Arnaud étaient en...
Non, c'est sa maman qui était avec.
Maman a épousé le docteur Arnaud. Et moi, je suis d'une Barnier. Mon père avait des amis
donc c'est
Barnier
un lien familial.
Oui, moi j'ai perdu mon père, j'avais 4 ans et demi. Et
alors
après,
nous connaissons bien une madame Chavant, qui est son mari. Elle est née Arnaud, ou enfin de la famille Arnaud. Chavant.
Chavant. Ah, Chavant. Oui, ça me dit quelque chose, voilà. Chavant. Mais j'ai un peu l'arbre généalogique de la famille. Il aurait fallu que je le cherche. Je n'ai pas eu le temps de le chercher. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Sinon, j'aurais pu vous en parler un peu plus. Je sais qu'ils étaient originaires de Saint-André, ça j'en suis sûre, et qu'après ils sont arrivés ici, voilà. Et que c'était la petite maison là que vous voyez était la maison du notaire, donc parce qu'ils étaient notaires depuis 3 générations.
Oui.
Et le père de Daddy, que j'appelais Daddy, mon beau-père, lui s'est occupé simplement des terres, et après mon beau-père, lui, était médecin. Voilà. C'est le dernier Arnaud qui était. Voilà.
Les Arnauds sont passés tauliers par.
Voilà, oui, c'est Tolier qui a racheté la. Tolier a toujours été dans le village. Oui.
C'était la grand-mère qui était encore là, mon arrière-grand-mère qui était restée là.
Voilà.
C'est-à-dire que pendant la guerre, on a eu pas mal de soucis parce que maman et Daddy étaient donc résistants. Nous avions logé des Juifs dans la petite maison. Et qu'on a réussi heureusement à faire partir avant que les Allemands n'arrivent dans le coin, parce que c'était dramatique. Cette époque de guerre a été très dure, parce que la maison a failli brûler, je ne sais pas si vous le savez. Les Allemands sont venus ici, moi j'étais avec ma grand-mère seulement à ce moment-là, puisque maman et Daddy étaient dans le Vercors, et ils cherchaient maman et Daddy en disant « vous êtes toutes résistantes, enfin, c'est épouvantable ». Ils nous ont mis au mur d'ailleurs, pour nous faire avouer, moi j'avais 12 ans, enfin je ne sais plus combien, donc oui à peu près, donc bon, le mur moi, pour moi ça signifiait rien, j'allais mourir, vous savez, quand on est jeune, c'est pas pareil, je me souviens toujours de cette époque quand on raconte ça à mes petits-enfants, et puis à ce moment-là, ils sont donc dit « on va brûler la maison ». Mais il y avait malheureusement le corps de ce garçon. La veille, il y avait eu le bombardement et Mme Béhu-Charmel avait demandé qu'on mette le corps de son fils dans la maison. Alors, ma grand-mère a dit, écoutez, vous ne pouvez pas brûler la maison. Et en plus, ce qui a joué peut-être, c'est qu'elle a dit que c'est les Américains qui l'ont tué. Ben oui, qui l'ont tué, enfin. Il y a un bombardement d'Américains, quoi, si vous voulez. Alors, ils ont dit, bon, ben, très bien, on viendra demain. Et puis, ils sont descendus au village et vous vous souvenez de Bocchis?
Oui.
Enfin, bon, Bocchis, Daddy le connaissait très très bien, il le connaissait tous les gens du coin, mais Daddy l'aimait beaucoup. Et Bocchis les a fait beaucoup boire en leur disant, mais c'est idiot, pourquoi vous voulez brûler la maison? Allez plutôt l'habiter. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont, ils sont venus l'habiter au lieu de la brûler. Parce qu'ils avaient brûlé avant la maison du bois de clé, vous savez. C'était les arbres, vous vous souvenez? Oui, les ménestrels. Les pauvres, je connais bien les ménestrels. Parce qu'en plus, les ménestrels, leur fille a épousé le fils d'un ami interne de mon mari. Donc on les voit très souvent, ils sont très gentils. Mais si vous voulez, ça a été un miracle, quoi, que la maison ne soit pas brûlée. C'est, ça tient un peu de choses. Hein. Bah, souvenez-vous, dans le bois de clé, ils ont tué un Mongol. Il y avait des Mongols à ce moment-là. Les Allemands avaient engagé beaucoup de Mongols. Ils ont tué une jeune fille. Je me souviens très bien de l'histoire. Oh, ça a été une époque qui ne l'a pas vécu, hein, quand on est... Bon. Et puis on a échappé à... voilà. Écoutez, voulez-vous venir prendre quelque chose?
Parce...
Mais pas du tout. Oh, bah non, j'ai pensé qu'après vos visites, vous auriez besoin de vous restaurer un peu.
Donc il y avait déjà une bonne cave, c'est pour ça que les gens, quand ils sont restés là, après,
ah bah, je vais vous dire, en plus, il y avait la cave de mon père, parce que mon père, aimait beaucoup les vins du vin.
Madame.
Et alors, maman avait dit à Valence, c'est dangereux, les Allemands vont venir à Valence. Elle a pensé qu'à la campagne, c'était très bien. Elle a apporté toute la cave de mon père ici. Alors, quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu tous ces vins du Rhin, bah, ils s'en fait plaisir, croyez-moi. Ah non, mais c'est incroyable, mais c'est vrai l'histoire. Alors, il y avait, vous savez, à l'époque, on mettait les œufs dans les biches. Pour les garder, et alors on avait de grosses biches, ma grand-mère mettait avait mis les œufs pour toute l'année. Alors ils ont trouvé les œufs, ils ont trouvé le vin, enfin ils étaient ravis. Et je ne parle pas de ce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont volé. Ils ont pris des affaires, quoi.
Mais voyant tout ça, je dirais, ils ont presque fait du sentiment, je veux dire.
Oui.
Vous savez, c'était pas seulement l'intérêt, ils ont oublié la haine.
Oui, peut-être. Et voyez-vous, ce que je voulais dire aussi, c'est que Daddy était un homme remarquable. parce que c'était un homme qui était vraiment... moi, je l'ai beaucoup apprécié. Il n'a jamais voulu remplacer mon père. Il a toujours été extraordinaire. Et alors, quand il a eu la débâcle, ils ont arrêté 15 Allemands qui se cachaient dans les champs. Mais c'était des jeunes, hein, pratiquement. Et les résistants les ont amenés ici. Je me souviens, on les a mis dans la grange. Et Daddy, il faisait une chaleur folle à ce moment-là. Daddy a dit, veux-tu leur porter à boire? Je me souviens que j'ai pris des... Et vous savez, c'était terrible parce qu'ils faisaient pitié. Ils étaient jeunes, ils étaient... Et à ce moment-là, les résistants sont arrivés en disant, on va les fusiller. Parce qu'il y avait eu, vous vous souvenez, d'un côté, on en avait fusillé 15 Français à Beauvoir, enfin, en dessous, là. Alors, Daddy a dit, je regrette, ce sont des prisonniers de guerre, vous ne les toucherez pas. Et ils sont repartis et ils ont été prisonniers de guerre. Mais ils avaient l'intention de les emmener là-bas pour les tuer. Ça, c'est terrible parce que c'était, ils n'y pouvaient rien. C'était des jeunes qui, après tout, ils étaient allemands, ils étaient militaires. Qu'est-ce que vous voulez? C'était pas leur faute.
Ils accomplissaient leur devoir national.
Ah, ben oui, mais tout le monde, quand vous allez en guerre, hein, vous êtes toujours l'ennemi. C'est normal. Enfin, ça, c'est une histoire qui m'a toujours. Quand j'ai vu ces jeunes, je m'en souviens toute ma ville. Ah, ils parlaient un petit peu français. Vous savez, ils étaient petits, tout ça, parce que j'étais une gamine. Mais ça m'avait vraiment touchée parce que je me suis dit, ces pauvres diables. C'était triste. Mais on les aurait très jeunes là-bas à l'époque en Allemagne, ils les prenaient très jeunes. Notez pendant la guerre aussi, parce que mon père, lui, il n'a pas été enrôlé, puisqu'il malheureusement il n'avait plus de père déjà en 17. Il s'est engagé volontaire. Il a demandé à sa mère s'il pouvait le faire. Il était chef de famille, enfin bon. Et ma grand-mère a accepté. Et à ce moment-là, ben, il avait 17 ans. Mais il s'engageait beaucoup de volontaires. Il a été dans les tranchées. Tout le monde a eu c'est une époque. Hein, c'est vrai. Venez, je vous en prie.
Alors, chose amusante, cette année, on a beaucoup d'écureuils. Alors qu'ils avaient disparu, et là, les écureuils reviennent. Alors, c'est joli, d'accord, mais bon, pour les toitures, c'est pas l'idéal non plus.
Non plus, oui.
Alors, ce qui est agréable dans cette maison, ce sont les boiseries, si vous voulez. Beaucoup de choses sont en noyer. C'est tout en noyer. Alors, donc, ça, c'est des noyers qui étaient vraiment, si vous voulez, déjà très anciens, quoi.
Oh, c'est vraiment très, très chouette. Et avec des tapisseries très sombres.
Hein, si vous voulez, elle est d'origine. C'est d'origine. La seule qu'on ait pu conserver. Oui,
Non.
Mais si, entrez. Oh, vous savez, c'est la campagne, hein, pas non plus. On y vit, donc voilà l'époque. Le salon avec la cheminée. Alors évidemment, à l'époque, il y avait 4-5 personnes qui s'occupaient de la propriété. Oui. Maintenant, je suis tout seul à faire le jardin et tout. Donc, c'est plus tout à fait la même chose. Ouais. C'est vrai que quand il fait beau... c'est plutôt pour travailler dans le jardin où, enfin, au moins, on a de quoi s'occuper, puis on est content parce que on peut faire des fêtes de famille quand même. Alors, vous voyez, c'est surtout les boiseries de ces pièces qui sont très belles. Vous pouvez jeter un coup d'œil, là, c'est la salle à manger, qui donne sur la fameuse terrasse où on voyait passer les calèches. Voilà. C'est toujours amusant. Oui, on chauffe. Et ça coûte cher maintenant. Oui, je peux vous assurer que c'est plus un véritable plaisir, surtout que la maison n'est pas spécialement isolée. Oui, c'est un peu bon, les salles de bain, tout ça, mais en haut, mais bon. On fait ce qu'on peut, petit à petit. Hein. De toute façon, aujourd'hui, ça représente quand même beaucoup de sacrifices, hein, d'essayer de conserver un bien dans la famille, et puis bon, pour essayer de le transmettre après, quoi. Voilà, donc... Ah oui. Mais alors, ils étaient plus un peu, il ne faut pas trop les regarder. Ils auraient besoin d'être un peu traités. Mais voilà, donc... Puis là, c'est l'ancienne cuisine, enfin, vous voyez, qui est là, avec le potager qu'on a gardé. Là, c'est notre pauvre, elle n'est pas méchante. Voilà, à l'époque, c'était l'ancienne cuisine, alors avec le potager.
Ah oui.
Qu'on a conservé. Donc, voilà. C'est... Bon, on l'a réactualisé un petit peu parce que, on est quand même aujourd'hui obligé, mais...
C'est l'ancien potager.
L'ancien potager qui est là. Voilà, vous avez fait un petit tour.
D'accord.
Du rez-de-chaussée.
C'est magnifique.
C'est avec plaisir. Hein. Voilà. Le bassin là, le bassin là-bas, voilà. Il y a un autre petit bassin là-bas. Non, non, parce qu'elle coule tout le temps. Mais là, c'est l'époque où elle coule le plus.
Et que puis-je vous offrir?
Un petit jus de fruits, c'est bien.
Jus de fruits, ça vous convient. C'est un vécu absolu.
Oui, justement,
mais ça nous m'a beaucoup marqué parce que comme j'étais enfant et que j'ai très peur pour mes parents, parce que j'allais les voir, je prenais un quart de la Saône et j'allais les voir et le soir quand j'arrivais là-haut, il y avait toujours quelqu'un de différent qui m'attendait pour qu'on ne sache pas qui allait voir. Et c'est chez les... Oui, Jacques. Et c'est Jacques qui avait des cousins là-haut qui lui avait fait trouver une petite maison pour maman et Dani. C'était une chance parce que sinon, ils auraient été embarqués. Et à Vinay, il y a eu encore quelque chose que je vais vous raconter. Attendez, il faut d'abord que je serve. Je vous raconterai après parce que monsieur, vous avez comme vous offrir. Alors, vous vous servez.
Non, mais c'est intéressant. Moi, je récupère tous ces témoignages sur Saint-Martin que j'ai raconté mon truc. Là. Et tout comme ça, moi, Saint-Martin, ça m'a passionné, ça. Hein. Alors, c'est dommage, ça se perd, moi. Que dans 50 ans, personne n'en parlera plus. Hein.
Fin de ce deuxième épisode. À bientôt pour la suite de cette aventure patrimoniale dans et autour de Saint-André. À noter que pour cet épisode, l'illustration musicale à la harpe était signée par Camille Julien, enregistrement réalisé dans l'église de Saint-André en Royan. Ce parcours numéro 5 est extrait du guide Bienvenue à Saint-André, édité par l'association.